France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les obsèques de Shimon Peres, mort cette nuit à l'âge de 93 ans, auront lieu après-demain vendredi à Jérusalem en présence de nombreux chefs d'État étrangers. On sera en ligne dans un instant avec Étienne Monin. L'armée syrienne, appuyée par la Russie, continue d'avancer dans Alep, les deux plus grands hôpitaux de la partie est de la ville, touchés ce matin par des frappes, analyse de Nabila Hamel. Le ministre de l'économie défend le sérieux et dit-il la cohérence de son projet de budget 2017. Michel Sapin rejette les critiques du Haut Conseil des finances public qui jugeait hier improbable la réduction du déficit prévu par le gouvernement. Commentaire de Jean-Marc Chardon. Nicolas Sarkozy, vivement critiqué par son ancien conseiller Patrick Buisson. Dans une interview à Valeurs Actuelles, il estime que le pire pour la droite en 2017 serait non pas de perdre, mais d'être une nouvelle fois, je cite, cocu avec l'ancien chef de l'État. Analyse politique dans ce journal avec Stéphane Robert. L'invité de l'ABCDR de campagne, Jean-François Copé, à la lettre D comme droite. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia.
Syrie, Libye ou encore le dossier des migrants, peut-on encore croire au multilatéralisme après les échecs cinglants de la communauté internationale? On en parle avec un spécialiste de ces questions des relations internationales, Philippe Moreau de Farge, qui est notre invité et qui est d'ores et déjà dans ce studio. Bonjour à vous, monsieur.
Bonjour.
C'est un peu ce matin à chacun son Shimon Peres, hommages internationaux qui se multiplient après l'annonce cette nuit donc de la mort de l'ancien président à l'âge de 93 ans. Pour le président américain Obama, Peres était de ces personnages qui changent le cours de l'histoire humaine. Génie au grand cœur, fervent avocat de la paix pour Bill Clinton qui présida, on le sait, la fameuse cérémonie de 93. Vladimir Poutine qui salue son courage, son sens de la patrie. Shimon Peres appartient désormais à l'histoire, écrit de son côté François Hollande qui annonce qu'il va se rendre vendredi aux obsèques. Nicolas Sarkozy fera également le déplacement, annonce-t-il ce matin. Et puis à Jérusalem, eh bien, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui salue, dit-il, un visionnaire mais aussi un champion de la sécurité de son pays. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Pour les Israéliens, en fait, avec Shimon Peres, c'est surtout, on l'a beaucoup dit, le dernier survivant de cette génération des pères fondateurs de l'État qui disparaît maintenant.
Oui, cette disparition a quelque chose du choc en Israël, même s'il ne s'agit pas d'une surprise. Le jeune pays perd son dernier lien avec l'épopée fondatrice. Il perd aussi la voix la plus écoutée à l'étranger, la seule encore audible et crédible aujourd'hui sur le terrain de la paix. Le monde politique israélien unanime lui a rendu hommage. Le président a écourté son voyage en Ukraine. Un conseil des ministres extraordinaire lui a été consacré avec une minute de silence. Le ministre de l'Éducation nationale représentant des colons, a demandé aux écoles de consacrer des cours à la vie et aux actions de celui qui a défriché la filière d'Oslo. Vous citiez tout à l'heure les premiers mots de Benjamin Netanyahou. Il a donc salué à la fois ce côté visionnaire, ce champion de la défense d'Israël, puisque Shimon Peres a œuvré pour acquérir des armes et des moyens de défense qui sont allés jusqu'au réacteur nucléaire de Dimona. Il a aussi œuvré ensuite pour la poursuite de la paix. Ça a été souligné dans les mots de Benjamin Netanyahou, parce que si Shimon Peres a été impopulaire tout au long de sa carrière en Israël, il est devenu sur le tard une personnalité unanimement respectée. Il a acquis le statut d'intouchable à plus de 80 ans avec la présidence de l'État. Il est devenu le meilleur ambassadeur du pays à l'étranger et il a choisi pendant cette période, cette présidence, de ne pas attaquer la politique de Benjamin Netanyahou malgré les fortes divergences politiques entre les deux hommes.
Obsèques nationales donc après-demain, vendredi à Jérusalem, Shimon Peres inhumé au cimetière du Mont Herzl, en présence de nombreux chefs d'État étrangers. J'imagine que déjà les Israéliens se préparent à cet événement.
Oui, effectivement, une cellule a été mise sur pied, une réunion déjà a été organisée au ministère des Affaires étrangères pour accueillir ce qui s'annonce comme le plus important rassemblement autour de la disparition d'un homme à la stature d'État en Israël depuis la mort d'Itzhak Rabin. C'est sur le cimetière donc des personnalités, dans le cimetière des personnalités et des fondateurs de l'État qu'auront lieu ces obsèques à partir de vendredi. On attend notamment Barack Obama, Bill et Hillary Clinton, François Hollande, le prince Charles. Demain, le cercueil de l'ancien président sera exposé sur l'esplanade de la Knesset à Jérusalem. Cette fois, ce seront les Israéliens qui pourront venir pour lui rendre un dernier hommage.
Merci beaucoup, Étienne Monin, en direct de Jérusalem. Shimon Peres, qui entretenait, on le sait, un rapport privilégié avec la France, relations d'intérêt stratégique qui ont été concrétisées dans les années 50 par une coopération nucléaire notamment. Il avait été nommé en 53 directeur général du ministère israélien de la Défense. Monsieur Peres se rend en France l'année suivante et puis deux ans plus tard, étroite collaboration qui s'amorce sous l'impulsion du ministre français de la Défense d'alors qui s'appelait Maurice Bourgès-Monoury. Et dans le domaine nucléaire, entre les deux pays, c'est une coopération qui commence. C'est la France, comme l'a rappelé Étienne Monin, qui va fournir à l'État hébreu son premier réacteur à Dimona. Frédéric Barrère.
Oui, le nucléaire en Israël est capital pour la défense de l'État et c'est aussi un tabou absolu. Le gouvernement israélien mène une politique d'ambiguïté sur le sujet et refuse de confirmer ou de démentir toute information concernant la bombe nucléaire en Israël. Israël s'en tient à cette version. Nous ne serons pas les premiers à introduire la bombe atomique dans la région. Officiellement, Israël n'a pas l'arme atomique, mais c'est un secret de polichinelle. La France a aidé l'État hébreu à devenir la sixième puissance nucléaire de la planète. Et selon les spécialistes, Israël posséderait aujourd'hui 200 têtes nucléaires. C'est Shimon Peres, avec Moshe Dayan, le héros borgne de la guerre des six jours en Israël, qui a obtenu l'aide de la France pour construire cette centrale nucléaire de Dimona, présentée comme une usine de textiles géants par Shimon Peres, ils ont fabriqué les premières bombes atomiques. Les États-Unis n'ont pas toujours été l'allié inconditionnel de l'État hébreu. Au milieu des années 50, c'est la France qui aide militairement Israël. Les deux pays ont un ennemi commun, l'Égypte de Nasser, qui soutient le FLN algérien et qui arme les combattants palestiniens. L'alliance durera jusqu'en juin 67, la guerre des six jours et l'embargo décidé sur les armes, la vente d'armes à Israël décidée par le général de Gaulle. Shimon Peres avait tissé des liens étroits avec la France lors de sa visite à Paris en 2008 comme président de l'État d'Israël. Il était venu avec un seul message, merci à la France, même si les relations n'ont pas toujours été au beau fixe entre les deux pays.
Merci beaucoup, Frédéric Barrère. L'armée syrienne, appuyée par la Russie, continue d'avancer dans la ville d'Alep. Elle a pris le contrôle ce matin d'un des quartiers rebelles où la situation humanitaire reste catastrophique. Le chef des casques blancs syriens s'alarmait ce matin. D'ici un mois, la vie quotidienne sera intenable et si la ville tombe, ses habitants risquent un massacre. Les deux plus grands hôpitaux, en tout cas d'Alep, de l'Est d'Alep, ont été touchés ce matin par des frappes. Le pape François lance un appel à la conscience des responsables des bombardements qui devront, dit-il, rendre compte devant Dieu. Mais c'est bien pour reconquérir l'ensemble d'Alep que le régime de Bachar el-Assad a lancé la semaine dernière une vaste offensive, donc avec le soutien actif de son allié russe, opération qui comprend un volet aérien, donc, et on l'a compris depuis quelques jours, un volet terrestre, utilisation intensive de l'artillerie. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Tout se passe un peu comme si maintenant Moscou et Damas avaient carte blanche sur le terrain pour agir et plus personne ne semble pouvoir faire contrepoids à cette initiative.
Oui, l'impression qu'il n'y a plus de ligne rouge, si tant est qu'il y en ait eu un jour, je fais allusion aux armes chimiques. La Russie semble bien engagée dans ce que des experts appellent une guerre totale qui permettrait d'accorder une victoire décisive à Bachar el-Assad. Alors oui, les dénonciations existent, situation effroyable, inacceptable, crime de guerre à Alep où deux hôpitaux et une boulangerie ont été ciblés par des tirs d'artillerie ce matin. Vous parliez du chef des casques bleus, Raed Saleh le clame haut et fort. Il n'attend plus grand-chose ni de l'ONU, ni de Washington. Pour lui, l'Amérique s'est retirée des crises internationales, pas seulement en Syrie. Et la tragédie qui s'y passe est l'échec de la communauté internationale et de l'humanité. Fin de citation. Alors oui, il y a tout de même une nouvelle rallonge, une nouvelle aide humanitaire de 360 millions de dollars pour les populations syriennes, annoncée hier par le département d'État. C'est un peu comme si c'était tout ce que l'on pouvait faire pour le moment, même si les États-Unis ont été les plus généreux donateurs avec près de 6 milliards de dollars d'aide depuis 2011. Washington craint en tout cas que les pays de la région, les monarchies du Golfe et la Turquie, soient tentés de fournir à la rébellion des missiles sol-air Manpads, alors que jusqu'ici, les autorités américaines avaient réussi à les en dissuader. La bataille que livrent la Russie et les troupes de Damas à Alep est la conséquence d'un échec des négociations entre Lavrov et Kerry.
Nabila Hamel, merci beaucoup. On salue l'invité de la dernière partie de la grande table, Philippe Moreau de Farge. Bonjour.
Oui, bonjour.
Offensive russo-syrienne sur Alep, donc on l'a vu. Préparation en Irak de cette offensive sur Mossoul, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Déjà plus de 5 ans de guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous allons? On a l'impression que tout
ça va continuer. Pourquoi? La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui la Russie et Bachar al-Assad peuvent gagner? Eh ben non, ils peuvent pas gagner. Premièrement, parce que la Russie s'engage de façon limitée. La Russie a envoyé, si vous voulez, on s'engage par des bombardements, par des actions aériennes. Elle n'enverra pas de soldats au sol. Un déploiement important.
Mais peut-être qu'il peut reconquérir ce qu'on appelle la Syrie utile, finalement.
Oui, oui, enfin, oui, attendez, la Syrie utile, très bien. En reconquérant la Syrie utile, mais faut la tenir. Alors, n'oubliez pas qu'il y a d'abord les Kurdes, il y a le problème kurde, et puis il y a le problème de l'opposition, et puis il y a le problème de Daesh. Donc, la Russie, Bachar el-Assad est quand même très délégitimé, et probablement l'armée syrienne est épuisée, parce qu'ils bombardent, mais ils sont très fatigués. Et troisièmement, vous avez évoqué la Syrie utile, mais il y a le reste de la Syrie. Donc, ça n'est absolument pas terminé. C'est-à-dire que le chaos va se prolonger.
Sans qu'il n'y ait personne qui puisse éventuellement parler plus fort que l'autre.
Si vous voulez, celui qui pourrait faire quelque chose, ce sera à la limite la Russie. Mais la Russie ne va pas le faire. La Russie ne va pas... Pour faire quelque chose, ça veut dire qu'il faut occuper la Syrie, installer des troupes en Syrie et dire aux forces syriennes, voilà la solution. Or, aussi, ce qui est très frappant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de discussion sur la solution politique. On se bat, mais on ne se demande pas ce que pourra devenir la Syrie après. Par exemple, est-ce qu'on pourra maintenir une Syrie unie avec un facteur très important qui sont les Kurdes. Les Kurdes, pendant toute cette guerre, et non seulement en Syrie, en Irak, en Turquie, ont émergé. Et probablement, ils vont se faire payer à un moment donné. C'est-à-dire par la demande éventuellement d'un État. Donc rien n'est réglé et ça va continuer, hélas.
Voilà, et on vous retrouve pour en parler, Philippe Moreau de Farge, notamment dans la dernière partie de la Grande Table. Le ministre de l'économie présentait ce matin le projet de loi de finances pour 2017. Michel Sapin défendait donc le sérieux, la cohérence de son projet de budget. Il rejetait les critiques qui ont été formulées hier par le Haut Conseil des finances publiques, lequel avait donc jugé improbable la réduction du déficit qui avait été prévu par le gouvernement, Jean-Marc Chardon. Mais pour Michel Sapin, c'est possible.
Ben oui, le ministre ne varie pas dans sa posture, qui est de répéter qu'il tiendra la trajectoire financière coûte que coûte pour aboutir aux objectifs de réduction de déficit. Et cela, quand bien même le Haut Conseil estime incertain le retour sous la barre des 3%, fortement incertain la réalisation d'économies de grande ampleur à la sécurité sociale et carrément irréaliste les économies prévues sur l'UNEDIC. Incertain pour cause de recettes qui ne seraient pas au rendez-vous et d'un train de dépenses supérieur aux prévisions. Alors le Haut Conseil s'est appuyé sur une prévision de croissance, celle du gouvernement, qu'il juge optimiste, comme d'ailleurs les autres instituts d'analyse. Pas de quoi déstabiliser Michel Sapin, qui s'est livré ce matin à quoi ? Bien, une évaluation poste par poste des économies supplémentaires, complémentaires attendues. Elle frôlerait les 14 milliards. Alors comment ? Bien, près de 2 milliards grâce à la lutte contre la fraude, plus d'un milliard grâce aux taux d'intérêt qui sont très bas, compter un bon milliard grâce à des acomptes sur des taxes et prélèvements qui permettront à l'État des rentrées plus rapides, 1,5 milliard dans la sphère sociale. On serait encore loin du compte si l'on oubliait la réorientation du CICE, laquelle permet de reporter à 2018 le décaissement que ça représente pour l'État. Il en va tout de même pour 5 milliards. Alors quand vous faites l'addition, il y aurait de quoi couvrir les 9 milliards de dépenses nouvelles. Mais vous le voyez, une partie de ces recettes est discutable car elle procède de rentrées anticipées ou de versements décalés à 2018, des dépenses dites moindres, qu'est-ce que ça signifie précisément? Et puis l'inconnu majeur sur le taux de croissance effectif l'année prochaine, le taux de croissance de 2017.
Merci Jean-Marc Chardon. Les temps sont rudes pour Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, est vivement attaqué par son ancien conseiller Patrick Buisson, qui publie un livre sur leurs relations. Interview ce matin à Valeurs Actuelles. Patrick Buisson estime que le pire pour la droite en 2017, ce ne serait pas de perdre, mais d'être, je cite une nouvelle fois, cocu avec l'ancien chef de l'État. Remise en cause donc qui se produit alors que Nicolas Sarkozy semble paradoxalement avoir plutôt choisi, disons, cette ligne buissonienne dans la bataille pour la primaire à droite, Stéphane Robert.
Oui, on a un peu l'impression de se retrouver en 2012. Hein, Nicolas Sarkozy a décidé de surfer plus que jamais sur les thèmes de l'identité, de l'immigration. Cet été, il était médiatiquement très présent sur l'affaire du Burkini. Désormais, c'est sur la question des migrants à Calais. Et il semble nous dire encore une fois qu'avec lui au pouvoir, tout va changer. Les migrants de Calais, il va nous régler ça en quelques semaines. Et puis, on ne peut pas garder en France 29% d'une communauté qui se trouve tentée par la charia, sous-entendu dehors tout le monde. Ça, c'est une déclaration faite en début de semaine faisant référence à une étude de la l'Institut Montaigne sur la communauté musulmane. Et c'est là que ce que dit Patrick Buisson dans son livre qui sort demain et dans cette interview de ce matin à Valeurs Actuelles vient percuter de plein fouet le discours et la campagne du candidat Sarkozy. Qu'est-ce que nous dit Buisson ? Qu'il était obsédé par l'image dans l'opinion que renvoyait son couple avec Carla Bruni, qu'il était un fragile séducteur subjugué par ses conquêtes info dures dans un état permanent de dépendance affective. Plus loin, il parle de ses colères homériques qui ne débouchaient sur rien de concret. Il menaçait, vituperait, humiliait, vociférait, raconte Buisson, mais ne sanctionnait jamais. Plus le volume de décibels était élevé, poursuit-il, plus l'impunité du fautif pouvait être considérée comme acquise. Bref, il nous dit que Nicolas Sarkozy n'est pas celui qu'il prétend être. C'est un procès en escroquerie qu'il lui fait là. Procès en escroquerie qui trouve un écho dans l'actualité avec les révélations de Mediapart sur le financement libyen de sa campagne en 2007 et puis avec ce documentaire sur l'affaire Big Malion qui sera diffusé demain soir dans l'émission Envoyée spéciale sur France 2. Et le danger pour Sarkozy, c'est que cette petite musique médiatique rencontre toujours en écho une autre musique qui, celle-là, s'est installée dans l'esprit d'un certain nombre de Français, de droite comme de gauche d'ailleurs, depuis 2012. Une musique selon laquelle Nicolas Sarkozy a déjà été au pouvoir et n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Bref, ce qui menace Nicolas Sarkozy, c'est ce procès en escroquerie à tous les niveaux et l'écho qu'il rencontrera à l'approche du scrutin dans l'opinion.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Bon, on va demander son avis quand même à Jean-François Copé qui est notre invité pour l'ABCDR de la campagne et qui est aussi candidat à la primaire. Alors Sarkozy, faux dur, vous êtes d'accord, je vous entendais sourire quand Patrick Buisson parlait de ses colères et du fait que finalement il n'y avait pas toujours le résultat attendu vu le nombre de décibels.
Alors l'inquisitoire est très violent. Moi je vois quand même, enfin je l'ai pas lu ce livre donc je peux pas trop en parler. La seule chose que je puisse dire c'est que ça apparaît comme un nouvel épisode de la décomposition de ce quinquennat qui avait démarré en 2007 sous l'enthousiasme lié à la promesse de rupture à laquelle d'ailleurs moi-même je souscrivais beaucoup et qui s'est terminée malheureusement en une défaite douloureuse, parce que les réformes n'ont pas été faites à l'époque. Alors après, chacun a son analyse sur les raisons qui peuvent expliquer les reculades successives. Ce qui est sûr, c'est que moi, la motivation première de ma candidature pour cette primaire, c'est justement parce que je veux porter la ligne d'une droite qui ne reculera plus, d'une droite qui va vraiment faire cette rupture. D'où l'idée de gouverner par ordonnance, que je défends, d'où l'idée d'assumer un virage, un tournant régalien, parce que aujourd'hui on peut plus tenir dans ces conditions. Là, j'entendais le commentaire très très juste que vous faisiez à l'instant concernant les fausses promesses sur le budget de Monsieur Sapin. Il se moque des gens, nous faire croire qu'il va réussir à tenir ses objectifs alors qu'il présente un budget totalement insincère où les dépenses publiques explosent. Je vois 2 milliards, j'ai noté 3 milliards quasiment d'augmentation des salaires des professeurs. On n'a pas le premier euro pour le financer, donc c'est se moquer des gens. Et quelque part, c'est pas responsable. Et donc, j'ai envie de vous dire, il faut rompre, d'où cette idée de rupture, avec ce qui fait que la gauche et la droite, pour beaucoup de gens, c'est devenu quasiment la même chose.
Alors, on ouvre l'ABCDR de la campagne, comme tous les mercredis, à la lettre D comme droite. Et c'est
oui,
Stéphane Robert qui vous interroge.
Alors que les candidatures citoyennes se multiplient en vue de la présidentielle, alors que fleurissent les candidats hors système, ni droite ni gauche, et qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'un estompement, d'un gommage de cette ligne de partage entre droite et gauche, on a choisi pour thème de notre ABCDR avec vous, Jean-François Copé, D comme droite, puisque vous revendiquez d'être le candidat d'une droite décomplexé, d'aider donc pour vous. Est-ce qu'il y a encore un clivage droite-gauche et c'est quoi l'essence de ce clivage selon vous?
Moi je suis convaincu que ce clivage existe profondément et je suis très opposé à l'idée qu'on puisse vouloir le gommer. Bien sûr qu'il peut y avoir des points communs sur tel sujet, mais il y a une vraie différence entre être de droite et être de gauche. Et si cette différence donne le sentiment de s'être estompé, c'est en grande partie parce que ceux qui, à droite, étaient censés gouverner, je pense en particulier en 2007, n'ont eu qu'une obsession, c'était de séduire les gens qui n'avaient pas voté pour eux. Et du coup, on a affaibli ce qu'est la droite par rapport à la gauche.
Oui, l'essence du clivage, c'est quoi?
Alors, liberté, pour moi, égalité, l'essence du clivage, différence. C'est quoi, en réalité? C'est un rapport au social différent. C'est un rapport à l'autorité de l'État différent. C'est cette idée, finalement, si je devais le résumer, que la droite, telle que moi je l'imagine, c'est le rétablissement de l'esprit de commandement. Je pense que le grand problème, le grand message d'ailleurs qui nous est adressé par les Français, quelle que soit leur sensibilité, c'est de nous dire finalement le problème c'est que la France n'est plus commandée. On n'attend pas de la gauche qu'elle commande quand elle est au pouvoir, mais on l'attend de la droite.
Ça veut dire quoi, commander ?
Mais commander, ça veut dire prendre des décisions et les assumer. Je ne reprends pas à mon compte ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais ce qui est vrai, c'est que les gens
ne supportent plus le décalage entre les mots forts et l'absence de mesure. Ils veulent qu'il y ait un lien étroit entre la vision qu'on propose, les moyens qu'on met en œuvre et les décisions effectives qu'on prend. Je vous prends juste un exemple pour être très concret. Aujourd'hui, pour faire une loi, il faut 18 mois. 18 mois au 21e siècle, quand on a besoin de 18 secondes pour faire un tweet, c'est intenable. C'est des procédures qui datent du 19e siècle. Aujourd'hui, ça donne le temps à tous les bêta-bloquants de se mettre en place. La CGT, les manifs, les grèves, les blocages, les lobbies. Et on peut plus réformer. Je ne vois qu'une solution, si on veut rétablir l'esprit de commandement. C'est de dire, inspirons-nous de ce qu'avait fait De Gaulle en 58. On prend 15 décisions dont on sait qu'elles vont débloquer le pays, on les prend par ordonnance, c'est-à-dire une procédure beaucoup plus courte qui peut être faite entre juillet, début juillet et fin août 2017, parce qu'on aura été élu dessus, donc on prend personne par surprise, et on passe donc plus de temps dans le quinquennat à appliquer la décision avec les Français qu'à se demander avec des commissions Théodule ou Attali ou autres si on doit les appliquer.
Alors ce que vous semblez nous dire, c'est que la droite est faite pour commander, pas la gauche, en quelque sorte.
Je pense que la gauche est, par essence, et notamment en France, dans une philosophie différente. C'est, d'abord parce que la gauche a perdu, me semble-t-il, ce qui faisait son originalité au XXe siècle, c'est-à-dire d'être une force incarnant un progrès social. Aujourd'hui, on se rend compte que, et c'est pour ça que la gauche tourne en rond, elle est plus dans une démarche de conservatisme. Elle a oublié cette idée selon laquelle faire progresser la situation sociale de nombre considérable de nos compatriotes qui sont en situation modeste, et je le vois bien en tant que maire de Meaux, ça ne peut plus être d'empêcher les réformes. Et c'est ça qui aujourd'hui fait que la gauche incarne le conservatisme. Vous allez me dire, et la droite? Et la droite, elle devrait incarner la réforme. Le problème, c'est qu'elle a tremblé. Elle a tremblé devant l'extrême-gauche, dans la rue. Elle a tremblé devant la gauche un peu mondaine, il faut bien le dire. Elle a tremblé devant les sondages. Moi, ce sont des sujets sur lesquels, à titre personnel, je suis insensible. L'extrême-gauche l'est toujours combattue. La gauche mondaine, elle m'a jamais beaucoup aimé. Et quant aux sondages, j'ai jamais eu de bons sondages.
Donc, elle avait des complexes, en quelque sorte, à droite. C'est pour ça que vous l'appelez décomplexée aujourd'hui.
Vous avez exactement. C'est pour ça que moi, j'ai parlé de droite décomplexée. Ça m'a valu d'ailleurs des tas de polémiques. On dit, oh là là, Jean-François Copé, décomplexé, ça veut dire extrême droite. Sûrement pas. Je hais les extrêmes. Je dis juste, la main ne doit plus trembler quand il faut décider.
Est-ce que vous croyez que la description donnée par René Raymond dans les années 50 sur les droites en France a encore une réalité? Droite orléaniste, droite bonapartiste, droite contre-révolutionnaire. Est-ce que Sarkozy incarne la droite bonapartiste? Est-ce que vous incarnez ça aussi? Est-ce que Juppé incarne la droite orléaniste?
Après, c'est toujours difficile, les années passent, mais moi, je m'en inspire toujours. Je m'en inspire toujours, même si les temps ont changé, même si orléaniste, bonapartiste, si ça doit être jacobin contre décentralisateur, ça n'a plus de sens. Mais je pense en revanche que c'est un certain rapport, effectivement, à la conduite d'une nation. Et je pense que ça correspond à des époques. Il y a des époques où on a besoin de gérer. De gérer le progrès, d'avancer dans une période où on n'a pas de décision trop structurante à prendre. Là, j'ai envie de vous dire une droite plus tiède, plus apaisée, peut faire son cours. Là, je pense qu'il faut une droite bonapartiste. C'est-à-dire, en fait, une droite qui a à sa tête un chef qui va incarner un leadership pour prendre les décisions que d'autres n'ont pas envie de prendre, les assumer et surtout les mettre en œuvre. Alors, vous me dites, est-ce que Sarkozy ou moi, on est bonapartiste? J'ai envie de vous dire, on est plutôt de cette tendance-là, lui et moi. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps, il y a un peu d'électricité dans l'air entre nous deux. Après, j'ai envie de vous dire, je me sens plus proche du Bonaparte de 1800, celui qui a réformé à la hussarde, mais qui a pris les décisions pour remettre de l'ordre dans le pays, que d'un Napoléon 1814.
Il n'y a pas une contradiction quand même entre être revendiqué comme ça l'autorité de l'État et par ailleurs avoir un programme libéral
En économie.
Oui, c'est-à-dire que...
Alors, écoutez, c'est une très bonne question. J'ai envie de vous dire, les ordonnances, la liberté, c'est pour les Français. Je pense que les Français ont vraiment besoin de liberté. Ils ont besoin qu'on les laisse faire, qu'on les contrôle pas surtout. Bien sûr qu'il faut des normes, en fait, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais qu'on redonne de l'oxygène dans un pays où dans un monde où le numérique est partout, n'empêchons pas, notamment la jeune génération, de construire et de créer. Donc la liberté, c'est pour les Français. Les ordonnances, c'est pour que la main des gouvernements ne tremble plus. Car le vrai sujet, c'est que plus la procédure de décision est longue, plus, comme je le disais tout à l'heure, elle laisse le temps aux bêta-bloquants de se mettre en place et d'empêcher les choses de se faire. Et plus ça devient usant pour l'homme politique qui se prend les manifs, qui se prend les réseaux sociaux, qui se prend tout sur la tête, de tenir bon. Alors que si on passe un temps court sur la décision parce qu'on a été élu dessus et un temps long sur l'application, ça rénove complètement la manière de faire de la politique.
Une toute dernière question, Stéphane Robert.
D'une droite des bonapartistes aujourd'hui, cette primaire est intitulée de la droite et du centre. Il n'y a pas les partis centristes. Est-ce que c'est vraiment une primaire de la droite et du centre ou est-ce que primaire de droite?
Oui, parce qu'en réalité, je pense que ça va se faire, cette élection, entre une droite, disons, plus bonapartiste. Moi, je dis une droite décomplexée et une droite plus tiède. On le voit bien. Et dans cette droite plus tiède se retrouvent des personnalités politiques qui, justement, ne se sentent pas spontanément avec l'envie de commencer par franchir le pont d'Arcole. Voilà. Et moi, je pense que le pont d'Arcole, il faut le franchir parce que la patrie est un peu en danger et qu'elle est devenue vulnérable. Et si je dis qu'il faut réarmer la France, réarmer sur le plan sécuritaire, bien sûr, on le voit, mais aussi sur le plan économique et sur le plan moral. Quand je dis moral, c'est pas pour donner des leçons de morale. C'est moral au sens de retrouver la fierté d'être français. Et aujourd'hui, tout cela s'est perdu. Parce que les gens ne se parlent plus, ne s'écoutent plus, ne se respectent plus, ont peur les uns des autres, attendent de l'État et du gouvernement qu'ils règlent des problèmes, l'organisation du culte musulman, les questions de sécurité, l'organisation économique. On attend des décisions du chef. Et si nous avons perdu en 2012, c'est parce que nous avions promis la rupture et que ces décisions, on ne les a pas prises, ni sur les 35 heures, ni sur les retraites, ni sur la sécurité, ni sur la laïcité.
Jean-François Copé, candidat à la primaire à droite, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un temps maussade sur la moitié nord ensoleillée. Sur le sud, des températures de 22 à 28 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal à 18h avec Tara Schlegel.